les ondes buissonnières. Oui. Diffusion sauvage.
Les ondes sauvages diffusent.
Non.
Diffusion sonore pour oreilles encrassées.
Non.
Diffusion sauvage pour des oreilles apprivoisées.
Non.
Les ondes buissonnières, diffusion sauvage de sonorités apprivoisées.
Yes.
Curieuse des ondes et amoureuse de la radio, bonjour, vous écoutez les ondes buissonnières, cette émission qui vous propose de découvrir des créations sonores, des documentaires sonores, des sujets auxquels vous ne vous intéresseriez pas peut-être autrement. Aujourd'hui, c'est le troisième épisode d'une série qui s'appelle Ici le Monde. Ici le Monde, ou comment s'intéresser à l'accueil de réfugiés sur le territoire, à celles et ceux qui accueillent, mais aussi et surtout à celles et ceux qui arrivent. Caroline Fontana, ethnologue, documentariste, a tendu son micro à des personnes de la communauté irakienne qui sont ici dans la Drôme depuis 2015. Dans cet épisode, rendez-vous avec Souleyman et Michel qui marchent toutes les semaines en montagne ensemble depuis 2 ans. Les montagnes du Diwa rappellent à Souleyman les montagnes du Sinjar en Irak, où le 3 août 2014, des milliers de yézidis se sont réfugiés pour fuir Daesh. Dans cet épisode, vous allez aussi entendre Sultana et Hussein qui reviennent sur l'événement qui les a contraints à fuir leur maison, puis leur pays. Et cet épisode s'appelle « Voir la mort en face ».
Ici le monde. Troisième épisode, voir la mort en face.
La nature est belle en ce moment. Pas encore trop sec. Ça c'est un rouge cul.
Souleyman, on a commencé à marcher pendant le confinement. Ça a commencé comme ça. Donc j'ai commencé à donner des, entre guillemets, des cours de français, une fois par semaine. Et puis après, on s'est dit, bah, Souleyman, il est enfermé à la maison. Tu voudrais pas marcher avec Michel?
Oui.
Oui. Donc voilà, toutes les semaines, on partait à pied de Die et on trouvait des petites balades inédites en partant de Die à pied. On faisait des balades de 2 heures, 3 heures. Ouais, ça a commencé comme ça.
Est-ce que toi, de marcher en montagne, c'est quelque chose que tu faisais en Irak aussi?
Non, pas beaucoup. Avant, oui. C'est pas comme Glandas, non. Glandas, 2000 mètres. Et mon village en Irak, 1400 comme ça. Et Kurdistan aussi, beaucoup de montagnes. Et Shingal, pas beaucoup, en montagne. Après, il arrive Daesh, en montagne, Shingal. Mon village, il s'appelle Shingal. Et très bien les montagnes pour beaucoup de personnes, les parties, les montagnes.
Les gens sont partis se cacher dans la montagne.
Oui. Oui, c'est ça. Et maintenant aussi à la montagne. Et maintenant, 7 ans, 8 ans, ils campent sous les montagnes. Maintenant aussi.
on ne sait pas comment tout ça s'est passé en 3 août 2014. C'était quelque chose qui était fait d'un coup. On n'avait jamais pensé à avoir tout ça.
Oui, il y avait toujours des gens qui mouraient. Et on disait toujours que des terroristes. Qui sont des terroristes? Bah, en fait, c'est juste un nom qui n'a pas d'image, pas de photo. C'est un mot sans alphabet, en fait. On ne connaissait rien de ça. Et non, j'imaginais pas de quitter mon pays. En 3 août 2014, je me souviens, on était tous dans le jardin de chez moi. Il y avait mon père, c'est le grand frère. Du coup, tous ses frères et sœurs, ils étaient réunis chez mon père pour dire qu'est-ce qu'on fait. Et mon père, il ne voulait pas sortir, en fait. Il ne voulait pas quitter ce qui est, je trouve, normal qu'il a construit depuis 20 ans. Et du coup, en fait, un de mes oncles, elle a eu un appel de ses amis de l'autre côté de montagne. En fait, notre ville, c'est Shingal. On vivait en Shingal, c'est en montagne. Et après, il y a des villages. Il y a 5-6 villages ce côté de montagne et 5-6 villages l'autre côté de montagne. Et il y a le Shingal, tout au fond de montagne. Et tout ça compte pour Shingal. C'est une région très jolie, je trouve. Et du coup, Daesh, il avait commencé l'autre côté de montagne. Et du coup, ils ne peuvent pas dépasser de montagne. Ils ont besoin de 2-3 heures pour revenir de ce côté-là. Et en fait, mon oncle, il a eu un appel de ses amis. Son ami, il a dit, en fait, Daesh, il tue les hommes. Il garde les enfants, j'imagine bien, pour tuer. Pour que l'apprenne à tuer. Et les femmes, ils deviennent esclaves. En fait, là, ce moment, mon père, il a décidé qu'on sorte. Et bah, notre seul choix pour survivre, c'est la montagne. Si tu connais pas la région, si t'es pas de région, c'est un montagne où c'est très compliqué. Tu peux très facilement être perdu dedans. Il est pas très très haut, mais il est très très long. Et du coup, je pense, c'était le seul moyen s'en sortir, en fait, en arrivant en montagne. Du coup, on est sorti de notre village vers, je sais pas, 2h, 3h du matin. J'avais 14 ans. Après, du coup, pour moi, à ce moment-là, on pourra pas prendre des voitures, on est obligé de marcher. Et pour moi, en fait, en arrivant dans la montagne, je croyais qu'en fait, on est en vacances. Parce que il y avait beaucoup de monde et du coup, il y avait des choses un peu. Tous les ans, on va dans les montagnes, il y a des fêtes. Il y a plein de gens, ils se réunissent, ils font des repas, il y a de la musique, il y a de la danse. Et du coup, c'était beaucoup, beaucoup de gens. Mais il n'y avait pas de la musique, il n'y avait pas de la danse. Du coup, moi, je n'avais pas cette conscience-là. On est en train de s'enfuir de la mort, en fait.
Le jour qu'on a quitté, c'était une fête. Ils avaient tous préparé à manger le midi et tout. Vu que mon père avec mes deux frères, ils n'étaient pas là. Et Gilles, il a pris les sacs de moutons. Et le matin, il est parti pour protéger les moutons et tout. Avec les gens qui étaient dans mon village. Parce qu'eux aussi, ils avaient des moutons. Ils sont allés Ils sont allés dans les montagnes. Mais vers midi, du coup, on a mangé. Mon cousin était venu chez nous, comme quoi il n'y avait rien du tout. C'est tout calme et tout. Nous, on a dit, ok, rien du tout. Mais vers 3h l'après-midi, enfin 15h, d'un coup, il nous a dit, il faut quitter. Parce qu'avant de venir dans Hazor Aval et Daesh, tous les villages qui étaient autour de nous, ils étaient tous tués. Tous attrapés, les enfants, les femmes, ils étaient tous attrapés et tués. Et heureusement qu'on était sortis avant qu'ils arrivent. Et moi, je suis restée avec ma mère, Maïr et mes deux sœurs, mes petites sœurs. Et heureusement, avec quelqu'un qui nous a aidés à apprendre avec eux. Même dans les montagnes, on est restés avec eux. Nous, on n'avait rien sur nous. Pas de manger, pas à boire. Juste les vêtements qu'on avait sur nous. Et Agile, du coup, nous a appelés comme quoi il avait vu des gens tués par Daesh. Beaucoup, beaucoup. Dans les roues et les routes. Et qu'il allait beaucoup, beaucoup soif et faim. L'après-midi, on ne savait pas s'il est vivant ou il est mort.
2003, la vie, elle est partie plus compliquée.
Oui,
2003, comme Saddam Hussein, il est parti. Elle est réveillée, les réveillés, les Qaïda, les Tanzim al-Qaïda.
Vous viviez avec la peur, hein. Il y avait toujours
tout le temps,
peur.
Tout le temps, comme quelqu'un, par exemple, je pars à la maison, je partis quelque part, tout le temps, la famille, il téléphone, tu es parti, tu es où, tu es passé où, tu es parti où, tu es arrivé quand, voilà, tout le temps, tous les jours, les vieux, ils parlent et ils disent, un jour, s'il arrive, pour nous, il est faire la guerre, on rentre à la montagne, la même chose, nous, il est rentré à la montagne.
Ouais, ouais.
Le 3 août, nous, il est parti, nous, il est sorti à la maison. Nous, il est sorti la nuit, presque à 9h, 9h30. Nous, il est sorti à la maison à pied. Parce que Daesh, il est juste à côté. Nous, il est rentré, nous, il est parti 20 km. Nous, il est rentré à la montagne.
On avait rien pris. On avait tout laissé dans la maison. Même, je me souviens, les sacs de l'ordinateur de mes frères et sœurs. On avait enlevé l'ordinateur, on avait mis le pain ou quelque chose à manger. Et moi, j'ai mis mon habit le plus beau que j'avais. Que je mettais pour les mariages ou pour les fêtes. Moi, je croyais que je vais aller à la fête, quoi. Et ce qui m'a marqué beaucoup, on arrive vers 4h, 5h de matin en montagne. C'est en août 2014, mais quand même, il faisait assez frais dans la montagne. J'étais allé voir ma mère. Je dis, maman, donne-moi un lit, je vais aller me coucher. Et là, ma mère, elle me dit, bah, regarde tes frères et sœurs, comment ils dorment, et bah, tu dors avec eux. Je regarde mon frère là-bas sur une pierre, ma sœur là-bas sur une autre. Je dis, bah, très bien, il faut trouver une pierre, en fait. Et je me suis couché, du coup, par terre. Et vers 7h du matin, bah, on a dormi juste une heure et demie. Et comme c'était compliqué, tu pourrais pas dormir longtemps. Je me réveille, j'ai mal partout. Et je vois ma mère de 15 mètres à moi, elle est en train de pleurer. Je vais vers elle. Et quand elle me voit, bah, elle nettoie ses larmes. Et moi, je lui demande, du coup, maman, il n'y a pas de petit déjeuner non plus. Elle me dit, non, il n'y a pas de petit déjeuner. Et là, elle m'a demandé, est-ce que j'ai bien dormi? Et ben, je me suis servi de son technique, je lui ai dit, oui, maman, j'ai très bien dormi. ce moment, j'ai dit, en fait, si je le dis, je n'ai pas très bien dormi, est-ce que ça va le faire de bien? Et je savais que ça ne le fera pas de bien, du coup, je l'ai menti. Et là, j'ai demandé à ma mère qu'est-ce qui se passe. Et ma mère, elle m'a dit, en fait, il y a des gens. Ils ne veulent pas qu'on existe. Ils vont nous tuer. Je dis, mais qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi ils vont nous tuer? Plein de choses. On ne parle pas comme eux. On n'a pas la même couleur. Ou on n'a pas la même religion. Ou on n'est pas d'accord avec eux. Et en fait, comme tu es différent, bah tu ne devrais pas exister. Moi, la conscience que j'ai pour la planète, je ne sais pas si aujourd'hui on vit, c'est grâce à la différence qu'on a. Et du coup, s'il y a des gens qui n'acceptent pas qu'on est différent, c'est vraiment très débile. Après, j'ai eu conscience de il y a des gens qui ne nous aiment pas sans qu'ils se posent la question pourquoi. Et moi, je demande pas qui m'aime. Je le demande juste, je veux vivre en fait. Et je pensais pas compliqué en fait. Laisse-moi vivre. Je pense que le moment de. Jusqu'à aujourd'hui, c'est le moment de le plus étonnant que j'ai vu dans ma vie. On est resté 7 jours dans les montagnes. Un jour, avec mon frère Fares, que je disais, on était très proches, on a décidé de monter. On était en bas de la montagne. Avec lui, on a décidé de monter. Pour voir, en fait. On voulait aller en haute de la montagne. Tout en haut de la montagne. En fait, c'est pas coutume. On savait pas, mais en fait, on montait comme ça. Après le montagne, il descendait. On a descendu, on remontait. Après le montagne, il redescendait. On descend encore, on monte. On voit le montagne et encore. Tu dois descendre et monter. Là, on a fait plus que 6 heures de marche. On a dit non, c'est bon, on va faire demi-tour. Et tout ça, en marchant dans la montagne, il y a du monde partout. Partout, partout. Il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire. Un peu, mais pas beaucoup. Beaucoup de gens, ils sont morts. Parce qu'ils sont morts en... Ils avaient soif. Beaucoup de gens, ils sont morts parce qu'il n'y a pas à manger. En revenant... Mon frère, il a vu quelqu'un de sa classe, une fille de sa classe, et il a décidé de rester avec elle. Elle n'allait pas bien, elle pleurait, et du coup, je suis descendu tout seul. En descendant, comme je t'ai dit, à une montagne, il est assez compliqué. Bah, j'ai perdu la route et j'ai pris un autre chemin. Et une fois, je marche. Il y a deux personnes. Il me fait des signes. Arrête-toi. Je disais, pourquoi arrête-toi? En fait, j'arrive vraiment, je suis comme ça. Si je faisais encore deux marches, je tomberais. Et je croyais que c'était tout droit, je pouvais marcher. je fais demi-tour, je ne sais pas comment j'arrive à arriver sur une petite chemin où on pourra, c'est comme une randonnée. Il y a un monsieur devant moi. Il porte deux enfants, à peu près de 15 mètres de moi. Je regarde, je marche. Là, le monsieur, il jette un enfant. Il le jette pas par terre, il le jette à qui a 60 mètres de bas. Il le jette, il le tue. En descendant l'enfant, qu'il ne va pas survivre une seconde. Ça m'a pas fait mal sur le coup. J'étais juste un peu beaucoup curieux de savoir pourquoi et qu'est-ce qu'il ressent, cette personne. J'ai couru vers lui, je l'ai tapé sur les épaules, j'ai dit, monsieur, qu'est-ce que vous ressentez là? Il me dit quoi? Il pleurait même pas. J'ai dit, je lui réponds, en fait, j'ai tout vu. T'as pas besoin de cacher quelque chose. Dis-moi, qu'est-ce que tu ressens? Et là, il me dit, ben, en fait, j'ai jeté mon dernier souffle devant mes yeux. Et je veux plus voir mes mains. En fait, il a jeté un de ses enfants. Il a gardé un. Et si ça continue, il jettera l'autre aussi. Et pour moi, il a fait le meilleur choix, parce que s'il sautait, il se jetait lui-même, les deux enfants, ils mourraient. Il a essayé de au moins sauver un. Et il y a des milliers de gens qui ont fait ça. Ils ne pouvaient pas, il y a des gens qui ont abandonné ses parents, il y a des gens. Innocents, ils vont me trahir, me traiter de menteur, ce sont celles des humains. Mes ailes se déploient pour mon vol, ils vont me chasser, ce sont des humains. J'ai fait un rêve, confiant, où le sang ne coule pas, mais les cauchemars me rattrapent. Dans le Tigre et l'Euphrate, ce sont mes larmes trop lourdes coulent face à l'indifférence des humains. J'ai hâte d'entendre les oiseaux chanter, mais je ne peux pas. Je les vois juste enfermés dans les cages. Pourquoi les humains? Ce sont eux les humains. Je veux cueillir l'amour, une fleur délicieuse, mais elle va tremper mon cœur. La femme, c'est un humain comme les autres. J'ai une fleur sur une terre lointaine, j'ai pris soin d'elle. Les orages et les tempêtes m'ont forcé de la quitter. Qui a déchaîné ce vent violent dans la douceur de l'été? Ce sont des humains. Si je vois une lumière à l'horizon, je ne dis à personne. Et je ne le dirai pas. Je lui ressemble. Mais pourtant, si je comprends quelle est sa nature, je ne veux pas être un humain. Non, je ne veux pas. Ils ont ouvert une route au bout d'une semaine. On a pu sortir par cette route-là. Et c'est de l'armée Kurdistan, Syrie et Turquie qu'ils ont ouvert. Ça s'appelle PKK, c'est une armée. Il y a à peu près 80% c'est des femmes. Il n'y a pas beaucoup d'hommes dans cette armée. Il y a beaucoup, beaucoup de femmes. Et c'est eux, ils sont venus pour ouvrir une porte pour nous. Et c'était l'armée Kurdistan d'Irak qu'ils nous protégeaient normalement. C'est l'armée Kurdistan d'Irak qui nous avait abandonnés. Et c'est l'armée Kurdistan Turquie et Syrie sont venus pour nous sauver. Et grâce à eux, on est sortis, du coup on est allé en Kurdistan d'Irak. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens, et du coup ils vivent dans les tentes. En fait, ils sont réfugiés dans son pays.
En Syrie, il y a les PKK qui sont venus nous aider. Et on a vu des gens qui étaient tous, fatigués, tous, ils marchaient à pied, des gens qui pleuraient, les enfants qui étaient de partout, pas de maman, pas de papa. On n'avait qu'une envie de partir, de se protéger, de rester vivant. Et mon père et mon beau-frère, ils nous ont attendus en Kurdistan. Voilà. D'accord. Enfin, tous, ils ont eu peur. Et toujours, on n'a eu pas de nouvelles de Agil et ma soeur. Agil est resté 6 jours dans les montagnes. Pas manger, pas de téléphone, rien du tout.
Après nous, il est resté 7 jours sur la montagne. Et les soldats du PKK, il est arrivé, il est ouvert la route. Et après, nous trouvons qu'il y en a une cousine, il est avec un tracteur avec la remorque. Toute la famille, il est rentré la remorque. Suleiman, il est 10 personnes. Et la famille Chameau est 11 personnes. Et la famille Chameau aussi, elle est 11 personnes. Et la famille Chahin, elle est 5 personnes. Et nous aussi, il est 6 personnes. Et Rachid aussi, elle est 7 personnes. Nous toutes, elle est rentrée dans un remorque. Vraiment, nous, elle est sereine. Nous, elle est partie avec un tracteur. Nous, elle est rentrée en Syrie. Et après, la remorque, elle est agrasée, les feux, tous les pneus, dans la Syrie. Et après, il y en a un bus, il est arrivé.
Un bus.
C'est un bus de
UNICEF.
Il est fait en terrain, il est tente encore, il est dans la sac. Le sac, il est dit, c'est pour vous. Vous, voilà. Si vous voulez, vous les faire pour vous.
Oui.
Nous, il est rentré là-bas, resté un soir là-bas. Et les jours après, mon grand frère, il a décidé, il a dit non, nous ne pouvons plus rester ici, on partait à Kurdistan.
D'accord.
Nous, il est parti avec un bus du UNICEF, on partait en Kurdistan irakien.
À la montagne aussi.
Il est parti presque 400 km. Et après, nous, il est parti à pied, nous, il a téléphoné pour les amis, aux cousins, aux cousines à là-bas, il est bien cherché avec nous. Par 2 mois, il est fait en tente, là-bas en Kurdistan, au camp. Et 2 mois après, je suis parti là camp. Après, comme nous, je pas presque 40, 45 jours, je n'ai pas travaillé. Tous les jours, ma chef, il téléphone, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Moi, j'ai dit, bah, je n'ai pas laissé la famille comme ça. Je n'arrive pas maintenant, comme je trouve bon et droit, après j'arrive. le consul français dit, j'ai trouvé pour toi quelque chose.
Moi, j'ai toujours imaginé qu'une ou deux semaines, même si quand j'ai eu conscience, je dis, allez, maximum 3 semaines. Et ça va faire 8 ans que je n'ai pas vu ma maison, ni mes amis. L'endroit où j'ai grandi. Je pense que ça va durer encore plus que 8 ans. Et si aujourd'hui j'y vais, il n'y a rien. J'ai juste le passé, je ne vais pas avoir une futur dans cet endroit. Et c'est un endroit vide, et aujourd'hui, c'est un endroit, ça fait peur. C'est devenu comme un cauchemar. Et cet cauchemar, il ne veut pas s'en aller, en fait. Comme ce que je raconte des fois, pour les gens ici, c'est comme un film. Les gens, ils ne comprennent pas, parce qu'ils ne sont jamais... Même, ils sont pas vus ça dans les films. Où c'est ma propre réalité, ce que j'ai vécu. Et c'est vrai, c'est des choses qu'on ne peut pas comprendre. Même moi, avant qu'on quitte, en fait, ça commençait en Syrie. Du coup, les gens syriens, les familles syriennes, ils venaient. Et en fait, du coup, il y avait une famille en Syrie. Ils sont quittés. Ils sont venus. Et ils connaissaient, il y avait un garçon, ils connaissaient mon frère, mon grand frère, Pacha. Et en arrivant en Shingal, il connaissait personne. Du coup, il a appelé Pacha. Pacha a dit, venez. Du coup, il y avait 6 familles syriens. Ils sont venus, on a accueilli 6 familles syriens. Il y avait beaucoup, du coup, on avait plus de l'école. Ils sont rentrés dans des écoles. Même il y avait des magasins, ils sont fermés. Ils ont fait comme des maisons pour les gens qui puissent vivre. Et cette 6 familles dans chez moi, du coup, ils parlaient un peu arabe. Moi, je ne parlais pas très bien arabe, mais... Je commençais à parler avec eux. Et en fait, les enfants, du coup, me disaient, on a vu des gens mourir, des gens qui morts de faim. Moi, je ne le disais pas, je te crois pas. Mais en partant, je disais, mais qu'est-ce qu'ils racontent? C'est pas possible, on est en 2014. Personne est mort de faim, en fait. C'est quoi ces conneries, en fait? Et ces gens-là, ils sont partis de chez nous. Ils ont dit à mon père, venez avec nous. Vous ne devez pas rester là. Les gens qui l'ont fait, ils sont juste là. Ils n'ont juste pas encore l'opportunité de venir. Et ils vont venir, ils vont vous faire pareil. Même mon père, du coup, a même pensé, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est n'importe quoi. Et 3 mois après, tous ces enfants, ils me disaient, j'ai vu en réalité. Et là, je comprenais ce qu'ils me disaient, en fait. Je comprenais qu'est-ce qu'ils ont vécu. Et là, j'ai compris qu'est-ce que c'est, en fait, la mort, en fait.
En août 2014, au Sinjar, des milliers de yézidis ont fui dans la montagne pour échapper aux exactions commises par Daesh. Cet événement lointain, presque inimaginable vu d'ici, me rappelle pourtant le récit de Jeanne à Saint-Roman. Elle me racontait, à l'aube de ses 100 ans, comment elle s'était réfugiée sur la montagne du Glandas en 1943 avec d'autres jeunes femmes et des hommes réfractaires au STO pour fuir les exactions des Allemands. En juin 2022, je rencontre Michel et Souleymane pour pique-niquer avec eux au retour d'une marche sur cette même montagne.
On a commencé à marcher avec Souleymane. Pendant les balades, ça a duré presque 1 an. Presque. On marche très peu l'hiver, hein, mais on marche du printemps à l'automne. Et Souleymane, à chaque balade, j'avais le droit à Daesh, aux exactions, aux amis qu'il a perdus. Donc voilà, ça tournait beaucoup autour de la mort, en fait. Et puis On est rentré dans une... dans une dimension où c'était, où maintenant c'est beaucoup plus, on parle moins, et c'est beaucoup plus la nature, les paysages qu'il apprécie beaucoup, les plantes qu'il cueille, et moi j'ai beaucoup de plaisir à marcher avec Souleymane parce que en fait, il est très proche. Il est très proche de la nature. C'est un petit peu comme le jardin. C'est une bulle. C'est une bulle de tranquillité pour Souleymane. Donc on marche, on sent la mousse. On regarde les racines des arbres qui traversent les sentiers. Les fleurs. On apprend des mots comme maintenant il sait ce que c'est qu'une combe. Ça peut servir tous les jours.
Oui.
Quand on entend du bruit d'une tronçonneuse, il sait ce que c'est qu'une tronçonneuse.
Oui.
Ouais.
Du jour.
Tu comprends ce qu'il disait?
Oui. Et Michel, il parle. Moi je connais. Il est quelqu'un, il est pas, je ne comprends pas. Je ne sais pas.
Ça alors? Vous comprenez quoi?
On a établi un code. Peut-être que ça s'appelle l'amitié en fait. Je me souviens au début, voilà cette première année avec Souleymane, je lui posais une ou deux questions et puis il disait, très souvent il me disait, Michel, c'est compliqué dans ma tête, c'est très compliqué dans ma tête. Donc ça voulait dire beaucoup, beaucoup de choses, quoi. Et là maintenant, c'est toujours un peu compliqué, mais il me le dit plus.
Non, tranquille maintenant.
Ouais,
tranquille maintenant.
C'était très très net. Il vivait en France, mais il avait encore un pied en Irak. D'après tout ce qu'il me racontait, d'après ses émotions, c'était ça. Il avait du mal à se dire qu'il allait vivre en France, quoi. On parlait beaucoup de Sinjar, de l'Irak, de ce qu'il faisait avant là-bas. Maintenant, c'est... il y a autre chose. C'est autre chose.
Les bonnes ondes de Radio Saint-Fé, vous venez d'écouter les ondes buissonnières avec un épisode d'Ici le Monde. Ici le Monde, c'est une série proposée par Caroline Fontana. Et cet épisode s'appelle Voir la mort en face. Vous pouvez retrouver toutes les émissions de Radio Saint-Fé sur le site www.radiosaintfé.com.
Les ondes buissonnières. Diffusion sauvage. Les ondes sauvages diffusent.
Non.
Diffusion sonore pour oreilles encrassées.
Non.
Diffusion sauvage pour des oreilles apprivoisées.
Non.
Les ondes buissonnières, diffusion sauvage de sonorités apprivoisées.
Yes.